VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guerriec et Eric Manirakis en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du lundi 31 octobre 2016. Au sommaire ce soir.
La page de l'opération Sangaris s'est tournée en Centrafrique. Les soldats français passent le relais au casque bleu de l'ONU.
Côte d'Ivoire, attaque d'un commissariat dans l'Ouest, des détenus libérés et des armes emportées.
Présidentielle en Guinée, l'opposition choisit un candidat unique pour le scrutin de décembre. Le président Yahya Jammeh brigue un cinquième mandat.
Le ministre sud-africain des Finances, lavé de tout soupçon de fraude, la justice a abandonné des poursuites avec effet immédiat.
L'économie et les sports, juste après le journal. Crise dans le nord du Mali. Le chef du groupe djihadiste en Sardine, Iyad Ag Gali, accepte un cessez-le-feu unilatéral. C'est du moins ce qu'affirme l'imam Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique du Mali. Cité par l'AFP, le dirigeant religieux dit avoir reçu une lettre du chef islamiste. Le doute subsiste, l'authenticité de la lettre n'a pas pu être certifiée par des sources indépendantes. Le document date du 27 septembre, mais depuis, il y a eu des attaques attribuées en Sardine ou revendiquées par le groupe, a déclaré lundi à l'AFP une source de sécurité.
Référendum en Côte d'Ivoire. 6,3 millions de personnes étaient appelées à se prononcer hier sur le nouveau projet de constitution. Les résultats du scrutin qui devrait être proclamé dans la nuit laissent peu de place au doute. L'opposition s'étant abstenue. Anastasie Tudiech.
Reprochant au pouvoir de ne pas l'avoir consulté, l'opposition avait appelé au boycott et s'en félicite. Pour l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, le taux de participation oscille entre 6 et 7%, entre 3 et 5% selon le Front pour le refus, coalition du non. Dans un communiqué officiel, la commission électorale a toutefois rappelé qu'elle est la seule entité habilitée à proclamer les résultats provisoires du scrutin. Pour Joël Nguessan, le porte-parole du Rassemblement des Républicains, le parti du président Ouattara, le oui l'a emporté et c'est l'essentiel. Monsieur Nguessan de rappeler la faible participation en France lors du référendum sur la durée du mandat présidentiel de 2000. Le vote d'hier a aussi été marqué par de nombreux incidents. Des jeunes ont saccagé les urnes à Yopougon, dans la banlieue d'Abidjan, et à Gagnoa, fief de l'ancien président Laurent Gbagbo. Pour le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé.
Anastasie Tudiech. Les autorités nigérianes, une fois de plus, pointées du doigt par Human Rights Watch. L'organisation américaine accuse des responsables, notamment des policiers et soldats, d'avoir violé et abusé de femmes réfugiées dans des camps du nord-est du pays, après avoir déjà été victimes des djihadistes de Boko Haram.
La page de l'opération Sangaris est tournée en République centrafricaine. C'est en ces termes que le ministre français de la Défense a officiellement proclamé la fin de 3 ans d'opération militaire française en Centrafrique. Jean-Yves Le Drian a assisté à une cérémonie au camp militaire Mpoko à Bangui. Le pays en proie aux violences est désormais sous la seule protection des Nations Unies, faute d'un État et d'une armée capable de résister aux groupes armés.
Tension politique en RDC, la République démocratique du Congo. 6 corps de militants de l'opposition ont été exposés publiquement à Kinshasa, au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti d'Étienne Tshisekedi. D'après l'AFP, ces personnes avaient été tuées en septembre lors des manifestations contre le président congolais Joseph Kabila. Environ 2000 militants de l'UDPS ont assisté à leurs funérailles.
L'opposition gambienne a choisi un candidat unique à l'élection présidentielle de décembre pour affronter le chef de l'État sortant Yahya Jammeh, qui dirige le pays d'une main de fer et brigue un cinquième mandat. Les détails avec Nani Talani.
Adama Barrow est membre de la direction du Parti démocrate unifié, la principale formation de l'opposition. Il a été désigné hier par les délégués des 7 partis d'opposition réunis en convention à Banjul pour choisir un candidat unique à la présidentielle du 1er décembre. Âgé de 51 ans, opérateur économique actif notamment dans l'immobilier, M. Barrow a obtenu 308 voix sur 487 lors du vote. Il a déclaré après sa nomination que les Gambiens sont fatigués par 22 ans de mauvaise gestion de Yahya Jammeh qui prendront fait quand ils iront aux urnes. L'opposition gambienne avait annoncé le 15 octobre qu'elle présenterait un candidat unique dans une rare manifestation d'unité contre M. Jammeh. Les signataires de l'accord avaient dit vouloir mettre de côté leurs divergences dans l'intérêt suprême de la nation.
La justice sud-africaine a annoncé aujourd'hui l'abandon des poursuites pour fraude contre le ministre des Finances Pravin Gordhan. Il devait comparaître mercredi à Pretoria. Nathalie Barge.
Après 3 semaines de polémique, le procureur général a abandonné les accusations lancées contre Pravin Gordhan. Shaun Abrahams avait annoncé le 11 octobre l'ouverture d'une enquête contre le ministre soupçonné d'avoir favorisé les conditions du départ à la retraite d'un haut fonctionnaire en 2010. Le procureur a reconnu que les accusations retenues contre M. Gordhan et 2 anciens responsables du fisc étaient infondées. Le ministre a attribué ces accusations au camp du président Jacob Zuma, auquel il s'oppose sur la gestion des entreprises publiques et la lutte anticorruption. Le procureur a nié toute interférence politique dans le dossier, affirmant devant les journalistes que l'affaire avait été traitée comme toutes les autres.
Le roi du Maroc, Mohamed VI, a demandé au chef de l'État tchadien, Idriss Déby, président en exercice de l'Union africaine, de transmettre aux États membres la demande d'adhésion de Rabat. C'est ce que rapporte l'AFP de source officielle.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et dans le reste du monde, lutte contre le groupe État islamique en Irak. L'armée n'a plus qu'un village à prendre pour assurer sa position à la périphérie de Mosul, bastion des djihadistes pris en étau depuis 3 semaines. Des dizaines de localités situées autour de la seconde ville d'Irak ont été reconquises par le soutien de l'aviation et de l'artillerie de la coalition internationale menée par Washington. Salwa Jafari.
Ce matin, les voitures blindées de l'armée irakienne roulaient sans embûche à travers le village de Bazouei. À l'horizon, Mossoul est visible. Le lieutenant Talib Sharati se félicite de la progression de ses soldats.
Nos troupes sont proches de la ville de Mossoul. Comme cela a été mentionné auparavant, nous nous trouvons à des centaines de mètres de Mossoul après la libération de Bazouei et Kokjali.
Depuis le 17 octobre, des dizaines de milliers de membres des forces de sécurité évoluent sur les fronts Est, Sud et Nord. Des unités paramilitaires dominées par des milices chiites viennent par ailleurs d'entrer en action à l'Ouest pour priver les djihadistes de leur liberté de mouvement entre Mossoul et la frontière syrienne.
Le président russe Vladimir Poutine a promulgué aujourd'hui une loi suspendant un accord avec les États-Unis sur le recyclage de plutonium militaire. Moscou a motivé la décision en raison des actions inamicales de Washington envers la Russie. Leur relation n'avait pas connu une telle crise depuis l'époque de la guerre froide.
En Syrie, l'offensive rebelle dans l'ouest de la ville d'Alep piétinait aujourd'hui face à la résistance des forces du régime. L'ONU a condamné le grand nombre de victimes civiles provoquées par les tirs des insurgés.
Un Palestinien a ouvert le feu aujourd'hui sur des soldats israéliens près de Ramallah, en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël. Il a blessé 3 d'entre eux avant d'être abattu. C'est ce qu'ont indiqué des responsables israéliens et palestiniens.
Au Pakistan, de nouveaux heurts ont opposé aujourd'hui la police à des militants d'opposition. Ils tentaient de se rendre à Islamabad pour la grande manifestation de mercredi. Leur mouvement veut transformer la protestation en véritable démonstration de force contre le premier ministre, Nawar Sharif, accusé de corruption.
7 djihadistes bosniens ont été condamnés aujourd'hui à des peines allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Ils ont été reconnus coupables d'avoir rejoint les rangs du groupe État islamique en Syrie en 2013 et 2014.
Et aux Émirats, 7 personnes ont été également condamnées aujourd'hui par la Cour de sûreté de l'État à Abu Dhabi à des peines de prison, dont 3 à perpétuité. Ces personnes sont accusées d'avoir formé une cellule liée au Hezbollah, mouvement chiite libanais favorable à l'Iran.
Au Liban, l'ex-général chrétien Michel Aoun est devenu aujourd'hui le nouveau président du pays. Son accession à la magistrature suprême a mis fin à un vide institutionnel de 2 ans et demi en raison de profondes divisions liées notamment à la guerre en Syrie.
Le médiateur de l'ONU pour le Yémen, Ismail Ulcheik Ahmed, veut reprendre les consultations après le rejet de son plan de paix par les belligérants. Il a annoncé qu'il espérait un règlement complet dans les prochaines semaines.
Et enfin, en Turquie, le quotidien d'opposition Cumhuriyet est déterminé à aller lutter jusqu'au bout pour la démocratie et la liberté. Et ce quotidien a publié un texte sur son site intitulé « Nous ne nous rendrons pas ». C'est après l'arrestation de plusieurs de ses journalistes, dont son rédacteur en chef, soupçonné d'activités terroristes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco, Nathalie Barge.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a désigné le Soudanais Abdallah Hamdok comme secrétaire exécutif intérimaire de la Commission économique pour l'Afrique. Monsieur Hamdok remplace le bissau-guinéen Carlos Lopez, qui a servi la CEA pendant 4 ans et qui a travaillé à l'ONU pendant 28 ans. Un nouveau bateau chinois a été arraisonné au large des côtes camerounaises pour pêche illicite et navigation en zone interdite, rapporte le journal Investir au Cameroun. Selon la Marine nationale, il s'apprêtait à pêcher à moins de 5 km de la côte où seule la pêche artisanale est permise et s'approchait dangereusement d'un câble sous-marin où la navigation est interdite. L'homme d'affaires nigérian Femi Otedola sort du club des milliardaires. Selon Forbes, sa fortune est passée de 1,8 milliard de dollars à 550 millions en raison de la forte chute des cours de sa société pétrolière Fort Oil. Par ailleurs, son entreprise a subi de plein fouet la dévaluation du Naira décidée en juin par la Banque centrale du Nigeria.
Pas de course, on passe au sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Suite du Tour du Faso.
Quatrième étape entre Combissiré et Tiébélé, remportée par l'Ivoirien Bamba Karamoko devant l'Érythréen Dawit Araya Haile. Au général, c'est le Français Gwiatkowski du club de la Défense qui est maillot jaune de leader.
Le sélectionneur allemand prolonge son contrat avec la Mannschaft.
Oui, Joachim Löw, champion du monde en titre, a prolongé son contrat de 2 ans jusqu'à l'Euro 2020. C'est ce qu'annonce la fédération allemande ce lundi. Le contrat de Löw, 56 ans, qui a pris la tête de la Mannschaft au lendemain du Mondial 2006 organisé par l'Allemagne et qui a terminé 3e, courait auparavant jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2018 en Russie. L'Allemagne court après un titre de championne d'Europe depuis 1996. En 2020, on rappelle que l'Euro sera organisé dans 13 pays différents, dont l'Allemagne qui accueillera 3 matchs de poule et un quart de finale.
Tennis, début du Masters de Paris.
Le dernier Masters 1000 de la saison, une occasion de voir les meilleurs joueurs mondiaux à Paris. Toutefois, l'épreuve ne comptera pas l'ensemble du Big Four composé de Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer et Rafael Nadal. Seul le Britannique sera présent. Il affrontera au deuxième tour l'Espagnol Fernando Verdasco qui s'est qualifié pour le deuxième tour suite à l'abandon de Robin Haase. Paul-Henri Mathieu ne verra pas le deuxième tour. Le Français âgé de 34 ans a été défait en 2-7 par Marcos Bagdatis, le Chypriote. Le score 6-2, 6-4.
La NBA, le championnat de basket nord-américain.
Golden State a décroché dans la douleur sa deuxième victoire de la saison à Phoenix 106-100. Tandis que Russell Westbrook est entré dans l'histoire en offrant une troisième victoire à Oklahoma City 113-96 face aux Lakers. Westbrook a marqué 33 points en 34 minutes face aux Lakers. Il s'est offert son deuxième triple-double de la saison, 33 points, 12 rebonds et 16 passes. Les Spurs de San Antonio se sont imposés à Miami 106-99 grâce à 27 points de Kawhi Leonard. Houston a infligé à Dallas sa troisième défaite de la saison 93-92 grâce à un lancer franc décisif de James Harden à la dernière seconde. James Harden pour un total de 28 points.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guerriec et Eric Manirakis en votre compagnie, place au dossier du jour.
La France a mis fin à 3 ans d'opération militaire Sangaris en Centrafrique. Annonce aujourd'hui à Bangui du ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. Toutefois, cette décision ne marque pas la fin des relations militaires entre Paris et Bangui. Entre-temps, le pays est désormais sous la seule protection des Nations Unies. Freeman Sipila.
Les militaires français ont été déployés en Centrafrique en 2013 alors que le pays était en proie à des affrontements meurtriers entre la rébellion de la Séléka et les miliciens anti-Balaka. 3 ans aujourd'hui, l'opération a permis d'éviter le chaos et l'élection de nouvelles institutions démocratiques. Le retrait des troupes françaises fait craindre dans le pays un risque de nouvelles flambées de violence.
Je pense que c'est pas le moment de laisser les Sangaris rentrer chez eux parce que s'ils n'étaient pas là, la situation allait être pire.
Je veux que les Sangaris restent.
La mission Sangaris a bien travaillé plus que la mission. Parce qu'ils travaillaient bien, ils défendaient bien la population.
Quant à moi, c'est un danger.
J'ai dit non pour leur départ.
Ghislain est enseignant. Pour lui, le retrait de la Sangaris est une satisfaction.
De ma part, je crois que c'est logique que la Sangaris puisse reprendre le chemin du retour. Juste parce qu'au départ, là, on sentait la Sangaris sur le terrain. Ils désarmaient les Séléka et même les anti-Balaka. Mais arrivant un certain temps, on n'a même pas constaté la présence de la Sangaris sur le terrain. Et comme si les Centrafricains sont abandonnés eux-mêmes. La preuve en est qu'il y a des tueries un peu partout dans le pays et personne ne tient compte de ce qui se passe. Donc je crois que c'est pour nous un ouf que la Sangaris puisse repartir.
La Sangaris plie bagage mais passe le relais à la MINUSCA, la force de l'ONU déployée dans le pays en septembre 2014. Depuis plusieurs semaines, la MINUSCA fait l'objet de critiques acerbes. La société civile exige même son départ. Dans les rues de Bangui, la MINUSCA n'inspire plus confiance.
Un peu partout, on a des troubles, tout ça là, et la MINUSCA qui est censée protéger les Centrafricains, c'est eux-mêmes qui laissent maintenant les Centrafricains à la merci de ces barbares.
La MINUSCA, je sais que la MINUSCA a lamentablement chuté. Leur mission partout ailleurs n'est que des échecs. Vous savez, toute la population centrafricaine revendique seulement le retour des FACA sur le terrain.
Moi, je n'y crois pas. Ceux-là sont venus juste pour leur business. On sent cela sur le terrain.
Pour Vladimir Monteiro, porte-parole de la mission de l'ONU Centrafrique, la MINUSCA a contribué efficacement et en toute impartialité à la stabilité du pays.
Ce que je dois dire ici, la force de la MINUSCA, grâce à son impartialité, elle est parvenue à contribuer à la stabilité dans ce pays. Et j'en veux pour preuve, par exemple, la réussite du processus électoral et la fin des tueries en masse. Ce qui se passait en 2014 n'existe plus en 2016. Il faut être aveugle pour ne pas voir les progrès.
Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, a indiqué lundi au Parlement centrafricain que la France n'abandonnera jamais la République centrafricaine malgré la fin de l'opération Sangaris. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Dans le nord de la France, à Calais, plusieurs pelleteuses finissaient de déblayer aujourd'hui les ruines de la jungle. Dernière étape de la démolition du plus grand bidonville de France. La question de l'accueil des migrants reste entière. Environ 5000 adultes ont été évacués ces derniers jours vers des centres disséminés sur l'ensemble du pays. Claire Morin-Gibault rejoint la responsable chargée de l'accueil des migrants au centre de l'armée du salut à Reims, Anne-Lise Mouret.
Alors l'accueil s'est plutôt bien passé, voilà, on les attendait depuis plusieurs jours. On les a trouvés fatigués, extrêmement reconnaissants et soulagés. Ils ont eu besoin de se reposer dans un premier temps, mais ils étaient soulagés d'être au chaud, d'avoir un toit et puis d'avoir des gens aussi pour s'occuper d'eux quand même, malgré tout, sur les premières choses à faire. Voilà, après c'est tout un apprentissage, hein. Apprentissage de vivre entre quatre murs quand on n'a pas l'habitude, apprentissage de l'électroménager pour nettoyer son linge, utiliser les plaques chauffantes, voilà des choses auxquelles ils n'étaient pas forcément habitués jusqu'à présent.
Avez-vous rencontré des difficultés avec la population de Reims? Est-ce que les gens qui habitent autour, vous avez eu des réactions hostiles?
Alors pour l'instant, on n'a pas eu de réaction hostile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas. En tous les cas, nous, on ne l'a pas ressenti comme ça. Au contraire, on a eu plutôt des gens qui se sont présentés spontanément par différentes voies pour nous dire voilà, est-ce que si on a besoin, est-ce que vous avez besoin d'aide? On propose de venir donner des cours de français, de venir leur faire visiter la ville pour qu'ils apprennent à sortir, à trouver les magasins, les lieux qui vont être ressources pour eux. Donc nous, on a plutôt eu des gens de bonne volonté. Jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien.
Et quelles sont les perspectives d'avenir pour ces migrants que vous avez accueillis?
Alors, tout dépend de la procédure dans laquelle ils sont. Certains ont déjà fait les démarches pour déposer l'asile, d'autres non. Les démarches sont tout à fait récentes. En tous les cas, tous ceux qui n'ont pas déposé l'asile nous ont fait part qu'ils souhaitaient le faire. Donc on va s'occuper de ces choses-là. Après, la demande d'asile, elle ne nous appartient pas à nous. Elle appartient à l'OFPRA, l'Office français protection réfugiés et apatrides. Donc c'est toute une procédure administrative pour qu'ils soient reçus et entendus par les officiers de protection. Et en fonction, effectivement, de ce que ressentiront les officiers de protection et des éléments qui seront apportés au dossier, ils estimeront ou pas la nécessité d'avoir une protection internationale. Donc à partir du moment où il y a une protection internationale, ce sont des personnes qui vont être régularisées sur le territoire français et pour lequel eh bien, il y aura tout un travail d'insertion à démarrer.
Voilà, c'était donc Annelise Mouret, chargée de l'accueil des migrants au centre de l'Armée du Salut à Reims.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Destination Conakry à présent en Guinée, des jeunes s'intéressent non seulement à la politique, mais nombre d'entre eux se sont aussi déclarés candidats aux prochaines élections communales. Ils bénéficient même du soutien du mouvement social, nous dit notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Comédien aux heures de pointe pour quelques billets de francs guinéens.
Moi, je suis marié. Je suis deux enfants, une fille, un garçon.
Alia fait partie de ceux qui soutiennent les candidats jeunes.
Mais le politicien, là, à l'air là, c'est pas travailler avec le jeune. Et l'homme travaille seulement avec le fils. Il n'aime pas avec le jeune de Conakry. Au nom de Dieu, ça ne va pas avec le patron.
Il n'est pas presque dans un parti politique. Un jeune indépendant, c'est quelqu'un qui n'a pas de couleur, quoi. C'est quelque chose qui peut résoudre notre problème.
Manque d'eau, mais aussi l'insalubrité sont cités parmi les problèmes des communes. La solution pourrait venir des maires jeunes. Dans la capitale, on y croit.
On doit faire une rupture. Les jeunes doivent se débarrasser des politiques politiciennes, des vieux. Parce que vous n'allez pas sans savoir que les vieux d'aujourd'hui qui nous commandent, nos élites africains en Guinée en général, ont failli à leur devoir.
Échec du système, envie de renouveler la classe politique, tels sont les objectifs d'un mouvement lancé par les jeunes au lendemain de la signature des accords politiques à Conakry.
Alpha Bakar Bari est membre du mouvement Liste Citoyenne. Ce mouvement apporte un soutien aux candidats indépendants.
L'aide est d'abord intellectuel. Ce que nous voulons apporter à ces gens, c'est d'abord l'assistance juridique pour qu'ils comprennent la loi et comment la loi fonctionne. Dans la constitution, par exemple, de leur caution de candidat, la constitution de la caution, les opérations de campagne, etc., etc., ce sont des choses que nous voulons améliorer. Ce sont des supports que nous voulons apporter justement aux candidats.
Une dizaine de candidats travaillent avec le mouvement. Ils défendent tous une nouvelle voie pour les jeunes.
Badra Kone et Amadouba sont deux jeunes candidats aux prochaines communales.
Vous avez appris à des gens un système qui, par le fait du temps, prennent conscience de la chose. Il y a une révolte. Les partis politiques ont instauré un système qui les rattrape aujourd'hui. C'est-à-dire donner de l'argent aux gens, les utiliser à leur fin politique.
Il y avait là le dégoût, mais puisque les gens n'avaient pas une alternative, ils étaient cantonnés. Et donc, comme ils ont su qu'il y a cette possibilité, il y a une autre voie que celle dans laquelle on veut les encercler, c'est tout de suite qu'ils ont sauté dans l'occasion.
Les élections communales sont prévues au mois de février de l'année prochaine. Plusieurs jeunes Guinéens espèrent se retrouver à la tête des communes à l'issue de ces élections. De son côté, le mouvement Liste Citoyenne dit vouloir se battre pour que soient possibles les candidatures indépendantes aux élections nationales, c'est-à-dire les présidentielles et législatives. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
présidentielle américaine 2016, la décision du FBI, la police fédérale, de rouvrir l'enquête au sujet des emails de la candidate démocrate Hillary Clinton, du temps où elle était secrétaire d'État, continue de faire des vagues. Son adversaire républicain Donald Trump l'a sévèrement critiqué au cours du week-end à ce sujet, mais son équipe électorale assure qu'il n'en fera pas le thème central du reste de la campagne. Le point avec vous, Timothée Donangmaï.
Après une enquête initiale, le directeur du FBI, James Comey, avait estimé qu'il n'y avait pas matière à poursuite judiciaire. Toutefois, la découverte de nouveaux emails dans le cadre d'une autre enquête non liée à Mme Clinton justifie la reprise de la première enquête concernant la candidate démocrate, a-t-il expliqué dans une lettre au Congrès. La police fédérale a obtenu à cet effet un mandat lui permettant d'examiner ces nouveaux emails provenant d'un ordinateur ayant appartenu à l'ancien député new-yorkais Anthony Weiner. L'épouse de Weiner, dont il est maintenant séparé, Uma Abedin, est une proche collaboratrice de Mme Hillary Clinton depuis le département d'État. L'objectif de la nouvelle enquête est de déterminer si ces nouveaux emails contiennent des informations secrètes provenant du serveur privé utilisé par Mme Clinton quand elle était secrétaire d'État. Pour l'heure, on n'en sait pas grand-chose, mais cette affaire qui a éclaté à moins de 2 semaines de la présidentielle suscite une vive controverse, d'autant plus que le ministère américain de la Justice avait fait savoir au directeur du FBI que ce n'était pas une bonne idée d'en informer le Congrès alors que la nouvelle enquête ne fait que commencer.
Alors une chose est sûre, cette nouvelle affaire relance la course à la Maison-Blanche dont l'issue est maintenant des plus incertaines, Tim.
Les démocrates et même certains républicains estiment que cette situation sans précédent pourrait faire pencher la balance en faveur du candidat républicain Donald Trump. Ce dernier a saisi l'occasion pour battre le rappel des troupes tout au long du week-end, accusant Mme Clinton une nouvelle fois de graves violations de la loi. Toutefois, la directrice de campagne de Trump, Kellyanne Conway, assure que son candidat ne fera pas de cette nouvelle controverse le point central du reste de la campagne, mais qu'il parlera des questions affectant les Américains, comme l'assurance maladie, la lutte contre le groupe État islamique ou encore la création d'emplois. En clair, pas besoin pour Donald Trump de jeter de l'huile sur le feu, un feu qui pourrait continuer de brûler tout seul à son avantage. De nombreux anciens procureurs fédéraux et l'ancien ministre de la Justice, Eric Holder, ont publié une lettre collective dénonçant la décision du patron du FBI. Le département de la Justice a pour politique de ne pas prendre une action non nécessaire si proche des élections au risque d'en influencer l'issue, a écrit M. Holder dans un article d'opinion publié par le Washington Post. De son côté, le chef de la minorité républicaine au Sénat, Harry Reid, a adressé une lettre au directeur du FBI, l'accusant d'avoir traité des informations sensibles d'une manière pouvant favoriser un parti politique par rapport à l'autre. Preuve de son regain de confiance, le républicain Donald Trump bat maintenant campagne dans des États traditionnellement démocrates à quelques jours seulement de la présidentielle du 8 novembre.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Michel Joseph a dirigé la mise en onde. Joe Gill était à la console. Morgane Guerriec, Eric Manirakiza à la présentation.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous suivez sur Facebook. Nous avons atteint la barre des 2 millions. On maintient la conversation. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.